Il vous reste encore quelques jours pour découvrir l'exposition de Catherine et Jacques Saint-Martin à l'espace d'art contemporain Les Carmes à Pamiers. C'est proposé par l'association Art Plus et c'est jusqu'au 23 avril. Je vous propose cependant une découverte de cette exposition en compagnie d'un des deux artistes, Jacques Saint-Martin, pour découvrir l'exposition plutôt basée sur de la sculpture en verre et de l'art textile. Jacques Saint-Martin, bonjour.
Bonjour.
Poser une exposition en parallèle avec Catherine Saint-Martin.
Oui, c'est ça, mon épouse Catherine Saint-Martin, oui. Je fais du travail textile et je fais de la sculpture avec des pièces de verre. Donc je m'explique rapidement. J'ai une formation scientifique, après j'ai fait une école d'art comme élève. Et après, j'ai été nommé professeur dans une école d'art dans le nord de la France, à Tourcoing. Ça n'a pas été simple quand même, ça a pris quelques années, parce que l'esprit scientifique est un esprit extrêmement cartésien. Puis l'art, ça nécessite de flâner. Mais on retrouve dans mon travail, on retrouve quand même une minutie des scientifiques. Alors ici, je présente donc des broderies et des peintures brodées. Et on va voir dans l'autre salle derrière des aquarelles et encres. Alors, quand j'ai découvert l'ordinateur, il y a presque 20 ans maintenant, j'ai tout de suite sauté dessus. J'avais une formation scientifique, donc ça m'a assez servi. Et j'ai très vite vu que l'ordinateur était un outil extraordinaire pour dessiner. Donc, j'ai beaucoup dessiné sur l'ordinateur et à partir des dessins d'ordinateur, je tirais des cartons, comme les cartons de tapissier, mais moi, je les utilisais pour faire des broderies. Donc là, on a deux broderies entièrement brodées, avec des fils de couleurs, avec des points différents, avec des retours des points et des retours sur les points, ce que ne font pas en général les brodeurs traditionnels. J'essaye de faire que tout ce qui est à l'intérieur bouge un petit peu, soit comme ça en suspens, et qu'il y ait plusieurs plans de lecture. Mon épouse à côté présente une pièce de tissu. Bon, elle veut pas appeler ça le patchwork parce que le patchwork est extrêmement cadré. Peut-être pas tous les gens qui font du patchwork. Donc elle appelle ça le travail textile. Donc là, elle travaille sur une série de couleurs en dégradé avec des retours de tarlatane coloré dessus, des perles. C'est une pièce assez somptueuse celle-ci.
Et donc, pour revenir un peu sur le dessin, vous disiez que c'est grâce à l'ordinateur.
Depuis tout enfant, j'ai toujours dessiné, mais je me suis mis à dessiner vraiment fortement vers les 25, 28 ans. Et là, j'ai passé un concours pour entrer à l'École des Beaux-Arts de Rouen. J'ai été reçu comme élève libre, pas comme élève normal, parce que j'avais dépassé la limite d'âge. Et j'ai eu la chance de tomber sur un professeur de gravure qui était un type extraordinaire. Et de ce fait, après, quand j'ai passé mon concours, j'ai été nommé professeur de gravure. Donc pendant 15 ans, j'ai fait de la gravure, pratiquement que de la gravure, jusqu'à ce que je découvre les ordinateurs. Et là, j'ai basculé dans la couleur très, très vite. Donc, oui, on peut poursuivre. Ici, il y a des pièces de mon épouse. Elle travaille beaucoup à partir d'Internet. Elle cherche des images d'architecture du monde entier. Et puis après, elle recompose à partir de certains dessins. Elle recompose et elle interprète avec la couleur des perles. Et ces pièces-là sont posées, sont collées sur du bois qui est découpé. Elle travaille un petit peu comme les miniatures. On pourrait presque parler de miniatures persanes. Là, ça, c'est un travail. C'est une sculpture verre et bois. En fait, vitrail et bois.
Oui.
J'ai commencé le vitrail il y a 4 ans et j'ai commencé à faire du vitrail classique. J'ai appris avec Monsieur Poul, qui est vitrailliste, et que je remercie au passage. Depuis très longtemps, je voulais faire du vitrail. Depuis très très longtemps. Et puis j'ai découvert qu'à côté de Foix, il y avait les forges de Pyrénées avec Monsieur Poul. Donc je suis allé le voir. Tout de suite, on a accroché ensemble. Je le remercie beaucoup. et j'ai commencé à faire du vitrail classique. Et après, j'ai considéré que le vitrail me convenait pas trop en tant qu'élément du sacré. Ce qui m'intéressait, c'était de passer du vitrail à la sculpture. Donc j'ai commencé à faire des pièces. Il y a plusieurs pièces qui sont en fait des sculptures bois et vitrail. Après cette série-là, j'ai senti le besoin d'alléger encore plus le vitrail. Bon, le vitrail, c'est massif. Son rôle, c'est d'être massif dans les églises, etc. En général, même dans des propriétés de gens, de privés, c'est souvent le vitrail classique, rectangulaire. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de mixer le bois et le vitrail. Et après ça, j'ai senti le besoin d'alléger encore plus. Et je suis parti dans des pièces comme celle-ci, voilà, par exemple, qui est comme une tour. Bon, je suis fasciné par le travail d'Alexandre Calder. Et je prélève des idées chez Calder. Mais je réinterprète, là où Calder met des petites pièces de métal laqué, moi je mets du verre, de façon à ce que ce soit un petit peu des colonnes, oui, des colonnes ou des signaux, oui, qui absorbent la lumière, qui la laissent transparaître, passer au travers, etc. Et là, par rapport à ces deux pièces-là, pour la broderie, je suis passé aussi à la peinture brodée. C'est-à-dire, j'ai eu besoin d'alléger. La broderie, c'est quelque chose de terrien, c'est très, très minutieux. Bon. Et je suis passé sur des fonds colorés, avec des encres de couleur, sur lesquels je reviens avec de la broderie, avec de la feuille d'or, avec du fil d'argent, etc., pour donner une dimension... Oui. De volume, oui, et mettre bien en évidence le... Et ça me donne à chaque fois, enfin pratiquement à chaque fois, la possibilité d'avoir des choses légères, des choses qui sont en suspension, qui sont en...
Vous faites à chaque fois, alors du coup, le mélange.
Oui. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas brodeur, je suis un artiste qui utilise la broderie, je ne suis pas vitrailliste, je n'ai rien contre, ni contre les brodeurs, ni contre les brodeurs, ni contre les vitraillistes, mais... Je suis un artiste qui utilise le verre à vitrail. Donc là, on a une série de peintures brodées qui déclinent des thèmes un peu... Moi, j'ai pas de thèmes principaux. Maintenant, je ne travaille plus avec mon ordinateur. Je travaille à partir d'aquarelles. Je fais des aquarelles rapidement et après, je réinterprète les aquarelles pour en faire des objets brodés.
Ça représente quelque chose ?
Non.
D'accord.
Non. Je mets jamais... Enfin, j'ai rien contre parce que ma femme met des titres, mais je ne mets pas de titre parce que je trouve que le titre, ça hypothèque l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'esprit... Si je dis ça, par exemple, c'est une lune, ça y est, j'ai tout dit. En plus, je ne le pense pas comme une lune. Hein, je pense comme un rond dans lequel il y a des couleurs différentes et dans lequel viennent s'agencer des objets. Et là, ça, ce sont mes signaux. Alors, les signaux, il y en a un certain nombre. Là, j'ai senti le besoin d'alléger encore, c'est-à-dire de retirer le support pour ne travailler qu'avec du fil de cuivre étamé qui donne des formes. Et dans ces formes, j'articule des pièces de verre. Ça, ce sont des dessins que j'ai faits, avec lesquels j'ai fait des papiers découpés. J'ai donné un fichier dans une entreprise qui m'a découpé au laser. Et après, je les installe en forme de sculpture en intégrant du vitrail dedans.
Mais ça semble peut-être un peu plus lourd que la sculpture
qu'il
y a à côté.
Oui. En même temps, ça m'intéresse parce qu'il y a un rapport dans la sculpture qui est à côté. Tout est dans la légèreté.
Oui.
Là, il y a un rapport entre quelque chose qui est complètement opaque, comme une feuille d'acier découpée, et puis des endroits où il y a de la lumière et de la couleur.
Mais comment est-ce que vous le travaillez, ça ? Quelle est votre technique ?
La technique, donc, c'est pour ça, par exemple, moi, j'utilise la technique du vitrail qui s'appelle le vitrail Tiffany. Tiffany, c'était un, je pense que c'était un, c'est un Américain qui a inventé un petit méplat de cuivre, une petite feuille de cuivre très fine qui se colle sur le côté du verre. Donc la pièce de verre qu'on a découpée, on la passe à la meule de façon à ce que la tranche soit bien droite. Et après, on colle la petite feuille de cuivre et on rabat la feuille de cuivre. Quand on a fait tout ça, on passe de l'étain, du plomb et de l'étain dessus. Et on fait la même chose dans les creux de la pièce. Et après, on introduit la petite pièce. Il faut qu'elle soit au dixième de millimètre près. On introduit la petite pièce et on soude ensemble les deux petites feuilles de cuivre qui ont été... Mon épouse fait aussi des pièces libres, comme ça on va voir dans la pièce tout à l'heure. Il y a une pièce où elle a son cabinet des curiosités. Elle travaille aussi des panneaux libres comme ça, qui sont assez beaux, avec des transparences, des couleurs opaques, et puis des jets de perles qui descendent. Elle ne met pas de bijoux autour de son cou, elle les met sur son... Là, je me suis beaucoup amusé.
Voilà, ça c'est représente tout... quelque chose.
Voilà. Mais c'était voulu. Oui. Tout tourné autour des petites cabanes de pêcheurs qu'on voit sur les plages. Avec les filets. Bon, moi, j'ai pas mis les filets, ça m'intéressait pas.
Oui.
Mais ça m'intéressait de faire des constructions en volume comme ça pour voir comment la transparence pouvait fonctionner et la lumière pouvait fonctionner. En fait, ce sont les maisons dont je rêve, moi, c'est une maison entièrement transparente. Et j'aimerais bien que tout le monde ait des maisons transparentes pour qu'on puisse se voir et qu'on puisse communiquer.
Mais on est dans l'intimité.
Voilà, oui. Après, si on y était habitué, on vivrait comme ça. Hein.
Du coup, cela veut dire que quand la lumière reflète, tout dépend du coup de l'intensité de la lumière, ça change la couleur.
L'œuvre de vitrail, quelle qu'elle soit, c'est une œuvre qui est toujours en mutation. On n'a jamais la même œuvre. Si on met une lumière, si on met deux lumières, si on ne met pas de lumière, on n'a pas du tout la même œuvre.
Est-ce que les couleurs peuvent aussi jouer avec la lumière?
Oui, et les couleurs jouent entre elles par transparence dans les petites maisons. On le voit très bien. Et puis on voit, si on les oriente, on voit les ombres projetées du vitrail. Ça, ce sont les dernières pièces que j'ai faites. Ce sont des petites pièces très légères. Là, je voulais encore être plus léger. Et j'ai travaillé sur des suspensions comme ça, murales. Ça m'intéressait d'avoir des pièces qui se posent. Et ça m'intéressait aussi d'avoir des pièces qui se mettent sur le mur comme ça.
Pourquoi cette recherche à chaque fois de la légèreté?
Je ne sais pas. Je pense que... Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné dans l'art, c'est l'immédiateté de l'œuvre et sa légèreté. Et quand on voit ce bonhomme qu'est Alexandre Calder, ce gros homme costaud, etc., et qui fait des choses extrêmement subtiles, en suspension, très délicates, etc., moi, ça me touche beaucoup, ça. Ça me touche beaucoup. Et la légèreté me touche. Peut-être est-ce que... Parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas toujours léger et que j'ai envie que ce le soit. Quoi.
Là, on est face encore une fois, du coup, à peinture broderie.
Là, des peintures brodées. Là, on décline toute une série de peintures brodées ici.
Elles sont chouettes, les couleurs. Comment arrivez-vous à jouer avec les couleurs, à faire en sorte qu'elles ressortent?
Ça fait 40 ans que je suis artiste, donc les couleurs, je... Mais j'ai toujours senti la couleur, même quand mon œuvre gravée était une œuvre en noir et blanc. J'ai toujours senti la couleur, j'ai été fasciné par des gens comme Gauguin, j'ai été fasciné par les gens comme Paul Klee, Kandinsky, Miro, etc. On retrouve des éléments dans mon travail.
Parce que là, on a l'impression que les couleurs se confondent entre elles.
Oui, c'est-à-dire que je fais des jets de couleurs qui reviennent les uns sur les autres, les unes sur les autres. Comme ce sont des jets extrêmement légers, la transparence fait que si je mets un jaune et qu'après... je dépose dessus un bleu, j'ai des verts transparents, extrêmement légers. Et la légèreté, c'est aussi là pour avoir quelque chose qui est en suspension, comme si c'était dans l'eau ou dans l'air, ou dans, que les éléments sont... J'ai envoyé Calder à la plage, il y a toute une série de mobiles qui sont un peu dans l'esprit de Calder.
Il y a donc le vent peut faire...
Le vent, oui, tout à fait.
Les éléments, finalement.
J'ai jamais voulu, pour l'instant, faire de l'art cinétique. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais ce que j'aime beaucoup, justement, chez Calder, c'est que ce n'est pas de l'art cinétique, et que c'est de l'art extrêmement léger. Là, ça bouge. Oui. Au moindre coup de vent, ça bouge, et c'est majestueux, ça. Des tours qui émergent, j'en ai deux, deux qui émergent du mur, là, c'est aussi la volonté de faire que la sculpture soit pas uniquement posée sur un, oui. sur une stèle, quoi, ou sur un buffet, ou sur
qu'on puisse le
mettre dans un endroit où on tourne autour et on. Alors ça, c'est la pièce là, c'est une pièce, elle a voulu s'installer là, mais il y avait de la place, vous pouvez, mais pour que ce soit comme un petit cabinet de...
On voyage.
Voilà, on voyage. Bon, elle a commencé par un travail de petit format, comme ça,
oui.
C'est-à-dire des petites pièces découpées, collées,
oui.
Bien encadrées, où elle décline toujours des perles, des petites pièces de métal, des tissus. Et puis, elle est passée aussi à des... Bon, ça, c'est inspiré de la mosquée de... Comment dit, Sparon, mais complètement revisité. Donc ça, ça plaît beaucoup aux enfants. Quand c'est le palais d'Aladin. Un enfant dans une exposition est rentré en trombe. Et là, sa mère, c'est le palais d'Aladin, c'est le palais d'Aladin.
Est-ce que cela vient des voyages que vous avez fait?
Oui. On a fait pas mal de voyages. Et puis, on a vécu, on a été coopérant 2 années en Algérie, en 72 et 74. Et bon, on a gardé... Ça, c'est une pièce aussi qui est héritée des Truilly. Ce sont des maisons dans les Pouilles. Qu'elle a complètement revisité, elle disloque l'image, elle ne garde que les espèces de petites cheminées, et puis après elle met des signes à l'intérieur pour...
Des signes, mais on a l'impression quand même que c'est de loin, comme
oui,
ça.
Que c'est en
oui,
volume.
C'est ça.
Un côté oriental, pardon, et elle a travaillé aussi autour du cirque.
Oui.
Elle avait envie de faire des chapiteaux de cirque, mais qui ne soient pas des chapiteaux. Ça, c'est très inspiré de Calder aussi, des lithographies de Calder. Et puis là, elle a cette série-là sur les copines et les vents d'ouest, c'est-à-dire des petites maisons qui sont balayées par le vent, qui sont côte à côte. Et là, ça, c'est le palais de la sorcière. Alors là, les enfants, on voit les yeux de la sorcière, les yeux de la sorcière là, qui passent à travers.
C'est très coloré.
Ah oui, oui, oui. Oui, et puis c'est un univers très poétique. Enfin, tous les gens qui voient disent « Ah, on décolle avec ça, on est dans les palais des mille et une nuits. Et... » Oui, elle a véritablement... Et en plus, ma femme est autodidacte. Hein, elle n'a jamais pris de cours de dessin, rien du tout. Quand elle a été à la retraite, hein, elle a commencé à se dire « Bon, ben, j'ai envie de faire des choses. » Et puis, elle a commencé par des petites pièces. Et puis, bon, voilà, ça a gagné.
Elle a du talent.
Au fur et à mesure. Moi, elle m'étonne à chaque fois hein, qu'elle sort une pièce. Elle me demande ce que tu en penses, etc. Donc, je parle avec elle. J'ai enseigné pendant 26 ans. Mais je ne mets pas la main à ses pièces. Je m'en empêche, justement. Bon, mais parfois, quand il y a quelque chose où ça saute aux yeux, qu'il y a quelque chose qui cloche, je lui dis comme je me le dis à moi-même.
Hein. Et elle aussi, inversement?
Oui, bien sûr. Souvent, je lui dis, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Elle me dit, oui, mais c'est un petit peu lourd. Oui, mais c'est un peu... Voilà.
Et vous avez deux ateliers différents? Vous travaillez ensemble?
Non, on a chacun un atelier. Ma femme a un atelier en haut de la maison. Et puis moi, j'ai un atelier qui jouxte ma maison. Et à Ganac, à 3 km de Foix, dans la vallée de la Barguillère.
Est-ce que vous avez l'habitude d'exposer ensemble?
Oui. Disons qu'on ne fait pas à chaque fois des expositions ensemble, mais il y a 3 ans, on avait fait une exposition à Mirepoix, et puis il y a 4 ans, on avait fait à Foix, à l'Estive, on avait fait une grande exposition tous les deux aussi, oui. Mais par exemple, à Foix, on avait mélangé les pièces, et c'était bien.
Vous complétez, en fait.
Oui. Et on vit perpétuellement dans la couleur, nous. On parle souvent des artistes et moins de leur temps, etc. Mmh. Moi, je peux m'engager, politiquement ou syndicalement ou n'importe quoi, d'un côté, et puis de l'autre côté, faire une œuvre qui n'a rien à voir avec les problématiques qui me préoccupent autrement. Je porte témoignage de mon bonheur de la couleur, mon bonheur de la légèreté, mon bonheur des matériaux, et c'est suffisant pour moi.
Et donc l'art ne vous sert pas du coup quelque part à sortir, expier certains sentiments ou émotions négatives ?
Oui, certainement. Mais à chaque fois que ça sort, c'est plus joyeux.
Avez-vous déjà exposé dans d'autres villes, en France ou ailleurs ?
J'ai exposé dans plein de musées en France, j'ai exposé à l'étranger, j'ai exposé au Canada, au Québec, en Allemagne, en URSS, en USA, aux USA. Il y a beaucoup d'expositions qui étaient des expositions collectives, mais il y a des expositions personnelles aussi. Et puis en France, j'ai exposé beaucoup, oui. Depuis 1987, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expositions.
Et vous évoluez à chaque fois ?
Oui, j'ai horreur de m'ennuyer. Et ça, c'est mon caractère. J'étais chercheur au CNRS. Et j'ai gardé ça. Je veux toujours remettre la chose à nouveau, aller vers quelque chose de nouveau. Oui.
Et donc, du coup, ce sera quoi, alors, la prochaine nouveauté ?
Je sais pas à l'avance. Je sais que je me dirige vers des choses beaucoup plus légères, peut-être des pièces plus grandes. Et puis aussi, je fais des pièces que je mets dans mon jardin, des pièces de métal découpées, soudées. Je fais des vitraux que je mets dans mon... Que je peux d'ailleurs, si des gens sont intéressés, je peux faire des pièces pour mettre dans des jardins. Et là, on retrouve une préoccupation que j'ai depuis très longtemps. Moi, je suis amoureux des arts primitifs, dits primitifs, parce qu'ils n'ont rien de primitif, ces gens-là.
Qu'est-ce qu'on appelle art primitif ?
Art primitif, c'est l'art des peuples aborigènes. Voilà. Et j'ai toujours été fasciné par les graphismes qui sont utilisés. Donc je connais bien l'art inuit du Grand Nord, l'art des Africains de l'Afrique de l'Ouest, l'art des aborigènes d'Australie, et je vais prélever des motifs les motifs qu'utilisent les aborigènes d'Australie, par exemple, ont un signifiant. Moi je n'ai pas de signifiant. Je n'utilise pas comme avec le signifiant, je l'utilise comme signe graphique que j'agence à l'intérieur des petites pièces comme ça. Voilà, on retrouve les petits points des aborigènes qu'on retrouve aussi dans la gravure inuite. Ah, c'est très minutieux,
oui.
Ça.
On a l'impression que ça raconte quand même quelque chose.
Oui. Et on retrouve à l'intérieur, on retrouve des choses un petit peu comme des becs d'oiseaux. Ça, c'est ma femme qui me l'a fait remarquer. Elle me dit, mais tu mets des becs d'oiseaux partout. Moi, je ne mets pas de becs d'oiseaux, mais j'aime quand il y a une confrontation entre des choses aiguës et des choses comme ça, assez voluptueuses, arrondies. Là, bon, ça, c'est typiquement prélevé dans les aborigènes d'Australie. Bon, les significations, le dream, hein, c'est la naissance du monde, comment ils s'articulent, comment eux se situent par rapport au cosmos, etc. Il n'y a pas un peintre aborigène d'Australie qui ne fasse pas référence au mythe de fondation de la Terre, etc. Il perpétue depuis des milliers d'années les mêmes graphismes. D'ailleurs, ça ne doit pas être facile pour des jeunes peintres aborigènes d'aller vers quelque chose d'autre, quoi.
Ah, vous voulez dire que du coup, ça les enferme ?
Oui, un petit peu. Les jeunes peintres aborigènes, ils sont un peu cloîtrés dans ce... Là, ce sont des peintures brodées aussi. Ces deux peintures brodées jaunes.
Avec des couleurs un peu plus vives.
Oui. Là, je suis plus dans des couleurs un peu pastel.
Oui.
J'aime les rapports colorés entre les oranges, les jaunes, les mauves, etc. Me fascine, moi. Ça m'a toujours fasciné. Là, c'est typique de ce qu'on peut faire avec l'ordinateur, justement. C'est une broderie que j'ai fait il y a assez longtemps et où on a un carré, on coupe dedans et hop, on change les morceaux et ça donne ça ouvre des possibilités magnifiques.
C'est un peu là, plus chargé.
Là, oui. Ça, c'est une broderie entièrement brodée, celle-là aussi. C'est plus chargé, mais en même temps, ça correspond à quelque chose parce que les choses qui sont là sont très légères, mais les thématiques que j'aborde dans mes broderies sont des thématiques où il y a quelque chose de terrien dedans. Mm-hmm. Même le sujet est un peu terrien, donc ça fonctionne bien, quoi. Puis là, bon, je me suis amusé dans les bleus, là. Je fais toujours quand j'avais mon carton ou mon aquarelle avec les couleurs, ce sont des aplats de couleurs. Après, j'investis complètement, c'est-à-dire que l'aplat de couleurs se transforme en 4, 5 ou 6 couleurs différentes. Hein. C'est-à-dire que ici c'est un aplat bleu sur mon dessin, et je le fais avec 5 ou 6 bleus différents. Et après je reviens dessus avec des trames pour avoir une double lecture. Une lecture première avec un quadrillage, et après les couleurs qui sont au fond. Je gagne en dextérité, enfin, et même en rapidité. Ma femme dit, mais tu travailles trop vite, tu travailles très vite, etc. Mais quand je suis dans une broderie, ou quand je suis dans une peinture brodée, je sais exactement où je vais. Je n'ai pas d'idée préconçue, mais je sais où je veux aller. Quand je choisis un orange ou un orangé, etc., je le constitue, mais il n'est pas parfaitement celui que j'avais dans la tête. Heureusement, sinon je m'ennuierais beaucoup.
Du coup, est-ce que vous travaillez tous les jours?
Oui, je travaille tout le temps. Oui.
J'ai vous toujours.
Non. Samedi, dimanche et fête. Mais disons que bon, oui, j'arrête quand j'ai mes enfants qui sont en Normandie, donc quand on va 15 jours, voilà. Mais j'emmène toujours des carnets de croquis pour dessiner, pour faire quelque chose. Oui, et puis vous savez, j'arrive à un âge où bon, c'est idiot de dire ça, mais les années sont quand même comptées. Donc voilà, j'ai l'impression que oui, et puis en même temps, j'ai l'impression que je gagne sur le temps en travaillant. Que le temps passe moins vite ou que quand il passe, il génère quelque chose qui me plaît. J'ai toujours été comme ça. Quand je suis devenu à l'école des Beaux-Arts de Rouen, j'avais 30 ans. J'étais avec des jeunes qui avaient 17, 18 ans. Et je venais du CNRS où je travaillais sur des expériences, deux ou trois expériences en même temps, etc. Et je voyais dans la cour un élève qui ponçait un œuf. Mais il a passé 6 mois à poncer son œuf. Et je me disais, mais c'est pas possible, il va jamais en finir avec son œuf. Et pour exorciser ça, je me suis dit, mais c'est toi qui es idiot, peu importe. Pour exorciser ça, je suis parti dans des grands dessins au fusain, des dessins qui faisaient 1,5 m, ou au crayon, où je mettais un mois et demi. Et après, je suis passé, quand j'ai fait de la gravure c'est extrêmement long, hein, et quand je suis passé à la broderie, alors là, les deux broderies qui sont là, il y a 2 mois de travail sur chaque, il y a 2 mois de travail à 5 heures par jour. Hein.
Quand est-ce que vous avez le sentiment que c'est achevé?
Ah ça, alors c'est très difficile à dire. Mais je sais le moment où il faut que j'arrête. À chaque fois, on ressent que ça y est, c'est fait. Mais par exemple, les broderies ou les peintures brodées, je ne reviens jamais dessus. Jamais. J'ai jamais défait un morceau de broderie. Toujours utiliser ce qui pouvait être peut-être une erreur pour l'améliorer sur place. Et je l'enregistre dans mon disque dur dans ma tête et je la refais pas, cette erreur-là.
Quelle sera la suite alors pour vous?
Je sais pas. Je vais continuer beaucoup sur la sculpture verte, là, oui.
À chaque fois qu'il y a un domaine que vous expérimentez, vous avez besoin d'y aller jusqu'au bout,
oui,
à fond.
Oui.
De voir toutes les facettes.
Oui, tout à fait.
Ça, on retrouve bien le chercheur, là.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai horreur de m'ennuyer. Vraiment, je me suis jamais ennuyé. Je me souviens, enfant, ne m'être jamais ennuyé. J'habitais au Havre, j'allais à la pêche, je dessinais, je faisais plein de choses. Ce qui me fait dire à mes petits-enfants quand ils disent « je m'ennuie », je leur dis bah, « écoute, ennuie-toi, mais voilà, ça fait partie de la vie, si tu t'ennuies... »
Ça aide à développer l'imaginaire.
Oui, oui, tout à fait.
C'est
tout
important
à fait.
De s'ennuyer.
Oui, 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 oui. Mais moi, je m'ennuie pas. J'ai toujours une pièce en route. J'ai toujours dans ma tête une pièce qui va venir. J'adore lire, je lis énormément. J'admire beaucoup, beaucoup d'écrivains, beaucoup de... Et je me suis dit que j'avais des choses à dire, et en fait, c'est là que je les dis le mieux, dans mes créations plastiques.
Et si demain vous vous retrouvez dans l'incapacité de pouvoir créer, de pouvoir...
Je pense que je m'éteindrai très vite.
Merci beaucoup.
De rien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir consacré du temps.
Je remercie Jacques Saint-Martin pour la découverte de cette belle exposition Catherine et Jacques Saint-Martin qui expose à l'espace d'art contemporain Les Carmes à Pamiers. C'est jusqu'au 23 avril au prochain et c'est proposé par l'association Art Plus. Belle écoute à vous sur les ondes d'Oxygène FM.